Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai mon avis là-dessus, mais j'ai, c'est pas ce qui m'intéresse.
Mais il faut pas non plus oublier d'où on arrive. Il faut garder les pieds sur les épaules, surtout.
C'est fini. Bon, va à la Fashion Week. Il y a les championnats du monde de poker en juillet. Je l'emmène avec moi. C'est bon. Voyage en classe éco avec moi. On va jouer au poker ensemble.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
Il est 22h55, merci d'être avec nous sur RMC, l'afterfoot qui est là jusqu'à minuit, comme chaque soir. Walida Cherchou arrive dans un instant, Flo Gautreau est déjà là, salut Flo.
Salut, salut Nico, salut à tous.
On est en direct, comme chaque soir également sur la chaîne YouTube de l'afterfoot, vous connectez, vous posez vos questions, vous lâchez vos commentaires bien entendu. Je vous donne le menu de cet after de ce 28 décembre. Le pouvoir de Mbappé est-il surconsidéré? Je paraphrase Kylian Mbappé qui a conseillé une interview à France 3, on va l'écouter dans un instant. Le cas est critiqué, à qui la faute, comment le gérer? On attend vos avis au 32-16. Lui qui a joué 9 minutes cette saison. Un petit bout de match, c'était face à Lorient, c'était au mois d'août dernier. Le coup de gueule à mi-saison de Flo Gautreau sur la Ligue 1 qui concerne Nantes et le TFC. Et puis supporters des nations africaines comme hier, on vous attend au 32-16 puisque les listes des nations qualifiées pour la CAN continuent d'être annoncées. On en a eu pas mal encore aujourd'hui. Vous nous appelez au 32-16 pour commenter tout ça. Voilà, on vous attend donc au 32-16. Et puis Walid arrive dans un instant, bien entendu. C'est parti pour l'after. Tiens, je vous donne une petite info pour commencer, puisque ça vient de tomber. Selon le média saoudien Al Riyadiyah, je ne sais pas si je le prononce bien, Karim Benzema n'a pas participé aux séances d'entraînement ce jeudi et ce vendredi avec Al Ittihad en Arabie Saoudite. Alors, il n'a pas été retenu du coup par son nouvel entraîneur, qui est Marcelo Gallardo. Il aurait d'ailleurs, alors ça c'est toujours selon ce média saoudien, il aurait quitté Jeddah pour des raisons encore inconnues. On rappelle qu'hier, Karim Benzema avait déjà supprimé son compte Instagram. Donc pour l'instant, c'est à prendre au conditionnel, mais c'est une info qui vient d'Arabie Saoudite. C'est très compliqué pour le ballon d'or français de 36 ans qui est très critiqué depuis son arrivée en Arabie Saoudite. On en parlait d'ailleurs il y a deux jours avec un spécialiste du foot saoudien, Arnaud, qui est l'administrateur du compte Al Nasser France. Il n'a pas des stats qui sont catastrophiques, Karim Benzema, mais ça ne se passe pas comme prévu pour lui, Flo.
Oui, et je pense que la communication autour de ces échecs doit l'étonner aussi, parce qu'on a dit hier que il s'attendait peut-être pas à une forme de pression comme celle-là, médiatique, supporter, observateur, on va dire au sens large. Et il a peut-être été surpris par ça, parce que d'abord, bon, ses stats sont pas catastrophiques, mais elle souffre d'une comparaison avec Cristiano. Ouais,
encore une fois.
Et puis, encore une fois, oui, pour lui dans sa carrière. Et je te dis, je pense pas qu'il s'attendait à ce qu'il y ait la moindre pression, la moindre commentaire négatif, qui déborde d'ailleurs le championnat saoudien, puisque nous, on en parle, y compris ici. Donc, connaissant Benzema et son orgueil, souvent bien placé, d'ailleurs, parce que ça lui a permis dans sa carrière d'être très réactif. Alors là, c'est des conjectures, parce qu'on ne sait pas pour les raisons vraiment précises pour lesquelles il s'est pas entraîné. Mais en tout cas, il y a quelque chose. L'histoire de son compte et de ses réseaux sociaux qui maîtrise assez bien d'ordinaire. Enfin, bien en tout cas qu'il maîtrise et qu'il a envie de...
Il aime bien communiquer à travers son biais.
C'est vrai que c'est un de ses biais de communication préférés. C'est assez étonnant. C'est quand même aussi une pierre dans le jardin de ceux qui pensaient que ce championnat, moi sportivement qui ne m'intéresse pas vraiment pour l'instant, mais qui pensaient que ce championnat n'aurait aucun intérêt, que c'était un truc de retraité.
Il n'y aurait pas vraiment de pression, quoi.
En fait, il y a des choses, on en a parlé dans l'after, c'était hier ou avant-hier.
Avant-hier avec Arnaud.
Ah ouais, avec Arnaud. En fait, il y a d'abord quatre équipes qui se regardent, et puis il y a cette pression un peu inattendue du fait que, on l'a dit, dans une des équipes, tu l'as dit, il y avait Ruben Neves, il y a des joueurs quand même.
C'est là qu'il y a Altidiade qui est champion de titre, son sixième, et c'est lui la tête de gondole du nouveau projet, donc ça la fout mal. Ouais.
Ça la fout mal, mais en tout cas, voilà, c'est quelque part, ça mettre au crédit de cette ligue que de savoir que, en termes de critiques, en termes d'attentes, voilà, c'est pas Disneyland. Tu vois, c'est-à-dire que si t'arrives à un souci, si t'as des stats un peu moins bonnes, on peut te tomber dessus. Ouais. Et je pense que Benzema, il s'attendait pas à ça du tout. Il s'attendait pas à ce qu'on lui parle de ses stats au moindre problème. Il s'attendait pas à être mis sous pression après des résultats comme ça. Donc, voilà, il y a un petit problème là-dessus. Sachant que, si tu fais ce choix-là, c'est un peu comme Messi. T'attends un peu d'être le roi du monde, quoi. T'es adulé. T'as vu Messi, c'est un peu n'importe quoi, parfois, sur le terrain. Là, c'est pas le cas. Là, en gros, on l'a attendu pour le contrat du côté du championnat, mais en revanche, du côté des supporters et des observateurs, on l'attendait aussi au tournant.
Voilà, plus d'infos à retrouver sur rmcsport.fr. On va débuter after également en écoutant Kylian Mbappé, l'international français du PSG, qui s'est exprimé en marge de son statut de parrain de l'association Premier de Cordée, qui vient en aide à travers le sport des enfants malades et ou en situation de handicap. Un joueur engagé, alors au-delà du football d'ailleurs, avec un certain pouvoir, il s'est exprimé là-dessus au micro de Fabien Lévesque.
On le sait, Kylian, votre parole, elle pèse énormément. Est-ce que vous considérez que vous avez du pouvoir aujourd'hui ?
Les gens le considèrent. Les gens le considèrent et parfois ils le surconsidèrent parce que on pense que voilà, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais l'équipe, c'est moi qui dis qui doit faire quoi. Mais quand bien même j'adore être investi et engagé, la base de tout, c'est que je suis joueur de foot et il faut jamais se méprendre sur ce que je suis. Maintenant, bien sûr que je suis un citoyen et bien sûr que j'ai des positions, bien sûr que j'ai des valeurs que je défends et j'ai des droits que je veux faire valoir et ça je l'assume et je le revendique. Maintenant, je me prends pas pour plus que je suis.
Parce que certains peuvent penser que vous en faites trop aussi.
Pas peuvent, ils pensent. Ils pensent, mais je pense que quand vous êtes ce que je suis, vous représentez ce que je représente, il faut pas trop faire attention à ce que les gens pensent, parce que sinon vous allez pas dormir de la nuit.
Voilà, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on surconsidère le pouvoir de Mbappé, pour le paraphraser? On vous attend au 32-16. Salut Walid.
Salut Nico, salut Flo, désolé du retard. Walid.
Tu vis en métro toi, non?
Ouais, je vis en métro.
C'est ça, l'homme simple, tu vois.
Ouais, j'ai
l'homme qui a plus de permis.
Petite galère dans le métro. Ouais.
Bon, ça a été.
Je récupère mon permis en avril.
Ah.
Suspension.
Voilà. Si tu crois que tu vas aller plus vite à Paris pour être sûr,
c'est pas faux.
Moi, j'ai passé un moment là cet après-midi.
Je me suis fait à l'idée des transports en commun.
Ouais, mais je pense que Flo a raison.
Pour la santé mentale, je pense que c'est préférable.
La bagnole dans Paris, il faut avoir une sacrée santé mentale.
Très costaud.
On en revient au débat. Est-ce qu'on surconsidère le pouvoir de Mbappé? Alors les gars, on l'a entendu, il est toujours aussi bon également dans sa communication, Mbappé.
Alors peut-être à l'entendre, peut-être. Hein. Après, moi, je trouve qu'il n'y a pas quand même de fumée sans feu dans le storytelling de Kylian Mbappé depuis plusieurs années au Paris Saint-Germain. On a eu quand même des infos concrètes sur le fait que le diagnostic qu'il a fait à un moment donné pour pouvoir prolonger. On se rappelle quand même qu'à sa prolongation, il y a Leonardo qui a été viré 10 minutes après. On savait très très bien qu'entre lui et Leonardo, c'était pas l'amour fou, que entre lui, sa famille et Luis Campos, il y a des relations qui sont bien meilleures et on a vu Luis Campos arriver. Alors peut-être qu'on fantasme et comme il le dit et que
qu'on surconsidère.
Peut-être que les problèmes avec Neymar n'ont jamais existé. Peut-être qu'avec Lionel Messi et une partie du vestiaire argentin où on nous a expliqué qu'il fallait franciser le vestiaire, peut-être que lui n'était pas d'accord avec ça et que c'était pas. Peut-être qu'on fantasme. Moi j'ai quand même un peu de mal à y croire. Maintenant on va croire en l'honnêteté de Kylian Mbappé qui encore une fois dans cet exercice de com. Rayonne comme d'habitude. Mais bon, chacun se fera sa propre opinion.
C'est quoi ton opinion, toi, Flo?
Non, mais je pense que effectivement Mbappé il est très fort. Donc en fait, il arrive à avoir du pouvoir. Je pense sportivement notamment, et à dire qu'on en fait trop autour de ça et qu'on se fait des films. Donc c'est ça qui est très fort. Après, je pense qu'il faut
là où il est bon, c'est qu'en plus, il va dans le sens de ce que beaucoup pensent, comme tu disais, Walid. C'est-à-dire quand on lui dit, est-ce que certains peuvent penser que vous avez, non, c'est pas, ils pensent pas, c'est ils pensent. Il y en a qui pensent. Il est fort quand il dit ça. Il prend les devants finalement.
Ouais, et puis quelque part, c'est une façon de quelque part de pas répondre aussi à la question, parce que d'analyser ce que les gens pensent, les observateurs, les supporters. C'est intéressant, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est la réalité de ce qu'il fait en coulisses, quoi, en gros. Et là, en coulisses, effectivement, il a joué un jeu, mais qui encore une fois, n'est pas son seul fait, c'est le fait des dirigeants du Paris Saint-Germain qui ont accepté qu'on joue ce jeu. Donc, lui, il peut pas dire dans sa communication aujourd'hui, par exemple, dire bah oui, effectivement, moi, en gros, j'avais des desiderata. Mais si en face de moi j'avais eu un club qui avait son leadership, peut-être qu'en gros ça serait pas arrivé. Là, il se trouve que le club qui a raté sa stratégie autour de Mbappé il y a quelques années en n'en faisant pas automatiquement sa tête de gondole et le centre de son projet a couru après lui. Et donc lui, qui effectivement est un homme de pouvoir, lui et son clan. Parce que là, quand je dis lui, c'est le clan Mbappé. Ils ont tout de suite compris et compris qu'il fallait prendre avantage de ça. Et là, ils ont mis le PSG sous pression. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les dirigeants du PSG ont accepté ce qu'a demandé globalement Mbappé, y compris en termes de contrat. Donc, c'est pas fantasmer que dire qu'il a du pouvoir.
Non, mais sur le fantasme, Flo, moi j'aime beaucoup.
On vous attend au 32-16, hein, supporter du PSG.
Je respecte beaucoup la maman Mbappé, par exemple. Mais c'est pas nous qui avons inventé sur les PV de l'histoire de César Mavacala ou dans les messages, elle dit quand même à Diallo, je fais ce que je veux au Paris Saint-Germain. C'est pas des choses, malheureusement. Alors c'est peut-être.
Ouais, mais après tu peux aussi outrepasser et penser que
c'est du laisser off,
à penser non mais, mais surtout laisser à penser que tu as du pouvoir alors que tu en as pas autant.
Oui oui bien sûr.
Peut-être voilà, que c'est elle aussi qui
a exagéré bien évidemment, mais quand on parle de fantasme, je trouve quand même que c'est un peu fort. Quand tu parlais de la tête de gondole, il avait exprimé son mécontentement à l'époque quand Lionel Messi est arrivé parce que son l'effectif, enfin le recrutement de Leonardo, il l'avait pas trouvé très très bon et il avait voulu partir du Real Madrid à cette époque-là, il s'en était expliqué chez Jérôme Roten. L'année d'après, c'est lui qui au micro de Talaron fait quelques mots en disant bon, on va faire avec ce qu'on a cette année parce qu'il n'était pas content non plus du recrutement de Luis Campos. Ce sont des choses quand même que Kylian Mbappé a laissé transparaître. La même chose cet été, l'histoire de je prolonge pas, j'envoie une lettre pour que derrière le PSG fasse tout comme alors bien évidemment si on écoute Kylian Mbappé au pied de la lettre, oui, c'est pas lui qui a appelé Ousmane Dembélé et son agent pour faire le deal. Oui, c'est pas lui qui a pris Kolo Muani, mais il a quand même fait l'histoire du pivot gang l'année dernière en disant moi je veux pas jouer numéro 9, je veux m'appuyer sur un numéro 9. C'est lui qui a expliqué en équipe de France avec l'histoire de Giroud, je suis plus à l'aise avec Giroud en équipe de France finalement par rapport au PSG, je suis plus libre. Il a fait quand même transmettre des messages au public et aussi à la direction de manière assez évidente. Ce sont pas des fantasmes quoi. Donc moi chacun se fera sa propre opinion, mais c'est quand même
Un peu gros. Le truc de cette interview, ce qui est assez étonnant toujours chez Mbappé quand même, en dehors du fait certes il est bon en com, mais le côté melon, si tu veux, il transparaît quand même parce que au lieu de dire par exemple non mais attendez, toutes ces histoires, même si c'était de la com, toutes ces histoires, écoutez, on en a fait beaucoup, il s'est pas passé tout ce qu'on a dit, même si c'est faux, tu peux dire ça et dire moi maintenant ce qui compte c'est le terrain, il faut qu'on reparle terrain, qu'on reparle ballon, PSG, équipe de France, aller progresser, etc., etc. Il est toujours dans une posture qui laisse entendre, tout en disant que on a beaucoup fantasmé, mais que effectivement, en gros, oui, au niveau où je suis et avec le niveau de notoriété que j'ai,
il a d'ailleurs souvent compte tenu de mon statut, voilà. Vu ce que je représente, il a quand même conscience de ça. Mais c'est vrai d'ailleurs, on peut pas l'enlever.
Donc il l'avoue un peu.
Voilà, c'est ça.
Oui, mais en même temps, c'est une réalité.
C'est pas un fantasme.
Non, mais justement, c'est une réalité. Mais si il avait voulu, il voulait, et ça ferait un peu de bien, je pense, à son image là pour le coup. Maintenant, il aurait tout intérêt un peu à dégonfler tout ça et arrêter presque de répondre à ce genre de questions, enfin ou à y répondre différemment, parce que là en disant qu'en gros il y a du fantasme, on en fait beaucoup, mais c'est vrai qu'avec ce que je représente, il se passe beaucoup de choses autour de moi, tout. Je pense que le côté, enfin déjà le message qu'on peut lui adresser, c'est lui, il faut qu'il se recentre sur le terrain maintenant, en tout cas. C'est-à-dire que là,
surtout en ce moment. Hein.
Surtout en ce moment. Maintenant, il y a trop de matchs de suite où on dit ah il a pas fait assez, ah il a pas été bon là-dessus, il a pas été suffisant. Ce qu'a dit Luis Enrique après le match, quand il a piqué après son triplé, quelque part, c'est ce que plein de coachs auraient dû lui dire depuis longtemps. Bon, le fait de le faire publiquement, c'est un choix de coach dans sa gestion. Mais en fait, c'est de ça qu'on a envie de parler maintenant. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, là, il nous parle de lui à la troisième personne, et oui, avec ce que je représente.
Que j'aimerais savoir, moi, surtout la suite de sa, alors, de
justement,
sa carrière.
Non, mais j'allais y venir, parce que là, forcément, là, tu dis, on aimerait bien parler de foot avec lui.
Ah oui.
Mais là, les gars, on est bientôt le 1er janvier.
Moi, j'aimerais
parler. On va
ça,
surtout
moi.
Parler de son avenir, lui, qui est en fin de contrat. Il y a une info qui a été balancée, là, par The Athletic, qui est quand même pas un média, qui est un média sérieux, quoi. Alors, qui explique que le Real voudrait faire une proposition au joueur, qui sera donc libre l'été prochain, mais qui vont lui filer un ultimatum, une deadline. C'est-à-dire, il faut une réponse avant mi-janvier. Ils veulent pas être pris de court comme ça avait été le cas, l'année dernière. Et donc là, visiblement, ils vont lui faire une proposition en disant on te fait une propale, mais par contre, il faut que tu répondes vite. Ouais, hein, et fameux, que tu nous dises tu viens ou tu viens pas.
Le fameux train du Real qui devait pas repasser, voilà. Qui repasse toutes les deux semaines.
Voilà, c'est un peu ça.
Ouais, ils vont refaire. Il y a encore un train qui passe à 16h09, là, dans deux jours, il y en a un autre. Non, mais et il y en aura un à 16h20.
Sur Mbappé, sur
ça va être un vrai
thème. Bien sûr, sur le contrat, c'est capital. Moi, il y a deux choses. Il y a le contrat et le terrain. Sur le terrain, il n'est pas bon. Il n'est pas suffisamment bon pour être ce que lui prétend être, à savoir l'un des tout meilleurs, sinon le meilleur joueur du monde. Il veut être Ballon d'Or, il estime qu'il est mal classé au Ballon d'Or, qu'il n'a pas la reconnaissance suffisante, parce que, pour être très clair, et là je parle de très très haut niveau, il n'est pas assez bon, il n'est pas dans l'esprit d'un joueur de très très haut niveau, il n'est pas suffisamment bon par rapport à ses partenaires, il n'est pas suffisamment bon dans l'attitude. Luis Enrique a pointé des choses là-dessus, c'est vrai. Et deuxièmement, sur le contrat, sur le Paris Saint-Germain, soit il prolonge vraiment un truc très fort pour dire bon voilà, c'est très clair, je reste, c'est l'histoire, et même s'il y a pensé à autre chose à un autre moment, soit qu'il aille au Real une bonne fois pour toutes, effectivement, avec ce train qui va repasser. Mais c'est vrai qu'à un moment donné là, maintenant, y compris pour lui,
on en peut
parce
plus,
que tu en parlais hier, Griezmann, enfin avant-hier. Mais pourquoi Griezmann, justement, même avec ses erreurs, le transfert raté au Barça, il y a quand même quelque chose, globalement, de très sincère dans la carrière de Griezmann. Et Mbappé, qui était adoré.
La décision, ça l'a traîné
ouais, un petit peu.
Un bout de temps.
Bah, ouais, mais
finalement, c'est peut-être, on va dire, le point noir dans sa communication.
Oui, mais ça a saoulé beaucoup de gens.
Oui, ouais, mais ça a saoulé, mais maintenant, regarde, t'as l'impression, voilà, il est passé à autre chose.
Non, mais t'as le droit de faire une erreur. C'est pour ça que même Mbappé, même cet épisode qui, pour moi, abîme son image, là, depuis l'été dernier. C'est pas très grave sur une carrière de 15 ans.
On a l'impression qu'on vit la décision tous les ans avec
voilà. Sauf que là, maintenant, ok. Admettons que ce soit globalement, je pense, moi, avec le recul, on dira une erreur, y compris dans sa com, finalement, de sa part, de faire lambiner tout le monde et tout. Non, là, maintenant, Mbappé, il faut qu'il prenne une décision claire, qu'il parle clairement, mais surtout, qu'il redevienne bon sur le terrain. Parce que sinon, le débat, il n'a plus aucun intérêt. Il aura mis à genoux les dirigeants du Paris Saint-Germain. Il aura mis à genoux toute la France en attente du truc pour après dire là il fait des mous quand il n'est pas content dans un match.
Moi ce que je redoute Flo, c'est impossible. Qu'on revienne à 2 ans en arrière et que jusqu'au bout du bout on n'ait pas cette fameuse décision.
Et quoi, qu'ils finissent par prolonger?
Bah non, on sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, ça, on va en débattre énormément, on va spéculer. Alors nous, c'est très bien, on en fait des émissions, mais qu'à un moment donné, ça saoule tout le monde à la longue, et que même pour lui, à un moment donné, il faut avoir quand même une route assez claire pour la suite de sa carrière.
Et pour rebondir sur ce que disait Flo, parce que Flo disait finalement, les dirigeants ont aussi une responsabilité. C'est lui qui lui donne le fameux pouvoir dont on parlait tout à l'heure, mais c'est qu'à un moment, il n'y a pas que le Real Madrid qui doit lui mettre un ultimatum. C'est peut-être au PSG à un moment de se dire, gars, on est au mois de janvier, nous on veut savoir si tu restes ou pas, comment on construit l'équipe.
Nico, moi je l'ai dit tout l'été, je me suis fait arracher par tout le monde, par Daniel, etc.
Dès qu'on a dit
que le Paris Saint-Germain était dans son droit quand même de demander 2-3 comptes à Kylian Mbappé, on nous a dit non, c'est une erreur, c'est de la faute du PSG.
Après, chacun son avis, on a le droit de se dire, t'es le PSG, t'as le droit de vouloir savoir.
Moi je suis d'accord avec toi, parce que l'histoire c'est quoi? C'est que il va repartir dans des tractations, on va encore lui faire une revalorisation, on va encore lui promettre monts et merveilles. Et moi, comme l'a dit Flo, le gros problème, il est surtout terrain, c'est que on n'oublie pas que le Paris Saint-Germain était en mauvaise posture au 5e match et qu'heureusement que l'AC Milan gagne cette rencontre-là, parce qu'avec avec un résultat positif pour Newcastle, Mbappé qui prend 100 patates par an est en Europa League. Le projet Mbappé, donc on est passé tout proche de ce scénario catastrophique là. Donc globalement, il faut pas l'oublier, ça c'est que c'est bien hein, le projet Mbappé, lui donner énormément d'argent, lui donner énormément de pouvoir, mais il faut qu'aussi ce PSG progresse autour de lui. Et si on est dans un tourbillon où tous les 2 ans en fait, il nous fait l'histoire de la prolongation et que entre guillemets il saigne le Paris Saint-Germain pour très peu de résultats, et ben ça aussi ça peut poser un problème.
Tiens, on a un message sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, il y a YK10 qui nous écrit: quelle histoire il construit avec Paris, j'ai peur que dans 10 ans je ne me rappelle que d'essayer, je pars pas. Voilà, il y a peut-être pas que ça, il est quand même aussi dans l'histoire du PSG,
mais c'est une possibilité raisons,
mais on va s'en souvenir aussi,
parce qu'aujourd'hui attention, on parle d'un joueur exceptionnel, c'est-à-dire que la valise de but en Ligue 1 c'est très très bien. Les 4-5 matchs d'exception en Ligue des Champions, c'est très bien aussi. Mais la réalité, c'est que Kylian Mbappé, quand il a prolongé il y a 2 ans, c'est pas pour gagner une énième Ligue 1 ou mettre 25 buts et être au coude à coude avec Openda ou avec Lacazette. C'est d'être au coude à coude avec Bellingham, avec Erling Haaland, dans les demi-finales de Ligue des Champions, dans les finales de Ligue des Champions. Donc ça aussi, aujourd'hui, le curseur avec Kylian Mbappé, il est très très haut par rapport à ses ambitions et par rapport à la qualité du joueur.
Et pour compléter très court, vas-y, sur Mbappé, ce qui fait très mal dans le début de saison 2023-2024, c'est le Bellingham au Real pour lui.
Ah, ouais.
Là, il a à côté de lui un gars dont l'attitude.
Bah, il vit son histoire pour
sur le terrain. Voilà, il vit l'histoire de Mbappé, alors que lui-même Mbappé ne doit pas l'avoir vu venir comme ça, tu vois, le Bellingham. Et d'ailleurs, quand il était sur le banc en disant, moi, c'est pas grave, j'y reste, tu sais, cet été, quand il a commencé à voir les Bellingham et les Haaland et les autres, lui, il a commencé à se dire.
Ah, Bellingham, il fait le Ballon d'Or l'année prochaine. Ouais. Voilà, il veut dire que Kylian, dans sa tête.
Donc Bellingham, si tu veux. Moi,
je vous avais dit il y a 3 ans que Bellingham ferait Ballon d'Or avant. Bon, c'est encore de la
sorte. Oui, mais on n'y est pas.
Je parle d'une éventualité.
Tu as raconté même ce début d'histoire de Bellingham avec le Real, avec cette façon de faire, avec ce numéro 5 de Zidane dans le dos. Moi, je pense que Mbappé, d'ailleurs, c'est très bien. Ça doit le faire réfléchir pour dire, est-ce que t'as pas oublié un truc à un moment donné?
Non, mais sauf que là, il peut être aussi piégé, Flo, parce que là, t'as les Brésiliens qui sont en force, Brésilien ami de Neymar, Bellingham qui a pris ce côté star aussi. Donc, est-ce que Mbappé,
Voilà, l'histoire d'il y a deux ans au Real, c'est plus la même que cette année aussi.
Il a peut-être finalement raté le train comme
c'est pas une vérité absolue, mais ça peut être une éventualité aussi.
Dans un instant, on ouvre un autre dossier mercato qui concerne le Paris Saint-Germain, c'est Hugo Ekitike. Alors, on va s'arrêter sur son cas, Hugo Ekitike, qui a joué 9 minutes, cette saison avec le Paris Saint-Germain. C'était au mois d'août dernier.
Contre Lorient, non?
Lorient. 9 minutes contre Lorient au mois d'août, le 21 août, précisément.
Mbappé jouait pas.
Voilà. Oui. Exactement. On vous attend, supporters du PSG. Comment gérer le cas Ekitike? À qui la faute? On en parle dans un instant avec Walid Acharchour et Flo Gautreau sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
Et Florent Gautreau et Walid Acharchour, il y a avec vous également 32-16. Vous êtes très nombreux ce soir encore sur le chat de la chaîne YouTube de l'After et on vous en remercie. On évoquait Kylian Mbappé il y a quelques instants. On va s'arrêter sur le cas d'un joueur pas franchement considéré. Déjà que Mbappé, son pouvoir est surconsidéré, dit-il. C'est Hugo Ekitike. Alors on se souvient, il y a un an, il est arrivé au PSG pour plus de 30 millions d'euros. Et puis cette saison, il a joué 9 minutes. C'était face à Lorient. C'était le 12 août. Je disais le 21, c'était le 12 août dernier. Alors on rappelle, il y a eu son transfert manqué à l'Eintracht Francfort au moment où Colomoigny, le 31 août, est venu au Paris Saint-Germain. Finalement, il est resté à Paris. Il est au placard. Il a des touches en Italie, en Allemagne aujourd'hui. Le PSG qui réfléchit à une sortie, une issue de secours pour cet hiver. On parle d'un prêt avec option d'achat. Il y a un gros article d'ailleurs qui a été fait par Loïc Tanzi dans l'équipe aujourd'hui. Vous pouvez aller le lire. Il y a également des infos sur rmcsport.fr.
J'ai pas eu les mêmes échos, moi, que Loïc Tanzi.
Alors justement, son agent a répondu d'ailleurs sur X aujourd'hui. Il a dit qu'il parce qu'on parle d'un acharnement incompris contre lui. C'est une source proche d'Ekitike qui est citée par l'équipe. Son agent lui qui répond en disant qu'il a reçu aucune insulte ces dernières semaines. C'est faux. Il va très bien physiquement, écrit-il, et mentalement, et il garde une grande discipline et un grand professionnalisme au quotidien. Quoi qu'il en soit, c'est une situation qui reste à régler pour lui et pour le PSG. Que faire avec Hugo Ekitike? À qui la faute? Venez nous le dire au 32-16. Vas-y, Walid.
Déjà, je voulais demander si Monsieur Pia, l'UNFP, etc.
Il s'intéressait à son cas.
On n'a pas eu de déclaration forte comme cet été pour Kylian Mbappé sur Ekitike.
Non,
sur les joueurs, le respect des joueurs, etc. Le fait d'être obligé de.
Après, si le PSG respecte, c'est-à-dire s'il s'entraîne avec l'équipe première, et qu'il est pas à part, etc. Ils sont dans son droit de ne pas le faire jouer.
Si Kylian Mbappé avait fait la saison dont on lui promettait à la base. Sans jouer.
Oui, mais une différence entre être s'entraîner à part du groupe. Je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs de
Ekitike. Ekitike joue. Ekitike s'entraîne.
Donc ils sont dans leur droit de ne pas le faire jouer.
On n'a pas eu de petites.
Ah non, c'est bizarre. Mbappé, il était dans le loft. Là, Ekitike, il n'est pas dans le loft.
Oui, enfin, oui, mais il aurait pu. Je pense que si c'est Mbappé, avec Mbappé, c'est très, très différent.
Je pense que l'UNFP, si Mbappé s'entraîne avec l'équipe première et qu'il ne joue pas, ils peuvent pas, l'UNFP ne peut pas dire faites-le jouer.
D'accord, je sais pas. C'est ton avis, ok. Moi, je ne pense pas. Mais bref, pour revenir sur Ekitike, bien évidemment que la situation, elle est problématique. Maintenant, on va pas revenir sur l'histoire cet été, histoire d'ego entre le joueur qui ne voulait pas aller à Francfort parce que Francfort s'est réveillé très très tard et que son salaire aurait été divisé par beaucoup par rapport à ce qu'il prend au PSG, qu'il ne voulait pas être une monnaie d'échange à Colomoigny parce qu'il pensait pouvoir continuer au Paris Saint-Germain, et le PSG qui ne l'a pas laissé partir sur des prêts avec option d'achat en Angleterre.
Il n'y avait pas là,
je crois qu'il y avait aussi un peu West Ham, pour lui faciliter un petit peu la tâche, et donc on se retrouve dans cette situation. Moi, je trouve ça dommage parce que je pense que Ekitike, même si j'ai pas été un grand fan de la saison dernière, tu peux pas l'enterrer sur une saison. Ça reste un très très jeune joueur qui a des qualités. Maintenant, il va falloir que sur ce mercato là, il trouve une solution. Maintenant, il faut pas oublier aussi que, et c'est très important aujourd'hui dans le football, je le partage à moitié, mais je suis pas à la place de ces joueurs là. Mais quand tu touches quand t'as fait une culbute de 6000 euros à 600 000, et à cet âge-là, tu veux pas t'asseoir sur 4 années de contrat aussi, donc il va falloir trouver une solution financière. Mais ce joueur-là doit aussi jouer, et il a encore une cote. Étonnamment ou pas, les clubs qui étaient dessus avant le Paris Saint-Germain, parce qu'il y en avait énormément, ils sont toujours là. Donc pour moi, pour le club comme pour le joueur, il va falloir trouver une solution très très rapidement, parce que c'est pas normal de rester dans cette situation là.
Flo, comment on gère le cas Ekitike aujourd'hui?
Je sais pas comment on le gère, mais en tout cas c'est un gâchis incroyable, parce qu'en gros c'est un joueur qui avait pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Bon, ça on le sait maintenant. Et c'est un joueur quand même qui est victime aussi de son entourage quand même, malgré tout. C'est-à-dire que dans l'été, et même si effectivement il y a les problèmes, le problème du salaire et de son contrat effectivement qui est capital. Prendre la décision, cette décision-là, de ne pas rentrer dans le deal là qui avait été mis en place avec Francfort, par exemple, quitte à ne pas jouer en gros, parce qu'il savait qu'il serait blacklisté après au Paris Saint-Germain. Enfin, il avait grande chance de l'être. Je trouve que pour un joueur de 21 ans, c'est terrible. C'est-à-dire ne pas jouer du tout, être complètement hors circuit, c'est très très compliqué. Donc,
non mais Flo, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis dans ton école, mais à ce moment-là, au-delà de l'entourage, parce qu'il y a aussi le joueur, c'est que si un salaire, je te fais à l'à peu près, mais entre 130 et 150 000 par mois à Francfort, et qui prend 600 000 par mois, on parle d'un contrat à 42 millions d'euros sur 5 ans. C'est-à-dire que
après le PSG, ils sont dans le droit aussi de payer le reste. Okay, normalement, c'est comme ça que ça se passe.
Mais est-ce que le PSG le voulait?
Ça
c'est autre chose.
Mais là, il paye 600 000 pour rien, tu vois.
Moi, je suis un fan de football. Et je suis totalement du côté de Flo là-dessus. Mais quand on parle d'un contrat de 42 millions d'euros sur 5 ans, et quand on te demande de diviser ton salaire par 5 à Francfort, et que Francfort il t'appelle à 15 heures alors que la fin du mercato elle est à 18 heures, et que le PSG te fait comme de la, comment dire, j'ai pas le terme, mais allez mon pote, nous on prend le numéro 9 de Francfort et toi c'est terminé. Il y a aussi, à un moment donné, il faut aussi se mettre à la place. C'est pas un choix qui est facile. Avec le recul, moi j'ai beaucoup critiqué cet été. L'entourage notamment est critiqué parce qu'un jeune joueur doit jouer à 21 ans, mais il y a cette question-là aussi qui se pose. Qu'est-ce que moi j'aurais fait à 21 ans si demain RMC on me dit au bout d'un an, écoute,
surtout comme tu l'as dit, t'as quelques heures pour décider. C'est voilà. Pas, tu donnes la réponse dans une semaine.
Mais c'est pour ça, pour rebondir sur ce que tu dis.
Comme ils avaient un mois pour bouger, ils ont bougé là.
Certes, mais maintenant là, puisqu'on est au mercato d'hiver, si ce problème-là se repose. Même pour un prêt avec option d'achat, parce que je sais que le PSG veut un transfert direct, mais il faut aussi qu'il y ait un deal entre le PSG et effectivement qu'il doit faire une partie du chemin. Peut-être qu'il va pas retrouver ces 600 000, une partie du chemin pour aller combler un éventuel salaire inférieur. Mais le truc qui est capital pour Ekitike, je comprends, t'as raison, sur le salaire, pour un joueur comme ça, c'est compliqué, et pour ses représentants aussi de s'asseoir là-dessus. Mais le plus important pour lui, c'est que je pense qu'on peut pas imaginer à quel point, même si c'est démenti les histoires de fragilité mentale et de tout ce que ça a pu avoir comme conséquence sur lui. Moi, je pense que ce gars-là, il est quand même fracassé, cassé par ce qui s'est passé. Parce que c'est très dur. Si on croit en toi à ce point, toi, tu penses que t'as le niveau, en tout cas, pour le faire. Et que derrière, ça se passe comme ça. Et que tu ne joues plus du tout, je pense que ça va être très compliqué pour lui derrière. Donc, je pense que le truc le plus important, c'est quand même de rejouer. Il faut que le PSG, effectivement, il y a un deal avec les représentants du joueur. Mais pour que le gâchis soit pas total, il faut qu'il joue là au mois de janvier.
D'accord.
Après,
je peux comprendre cet été par rapport au timing, mais je suis d'accord avec Flo, là en janvier, il faut régler la situation.
On va accueillir Jean-Jacques, les gars, supporters du PSG qui voulaient parler des Ekitike. Salut Gigi.
Bonsoir messieurs, comment allez-vous?
Ça va et toi Jean-Jacques?
Les fêtes se passent.
Comment?
Les fêtes se passent.
Les fêtes se passent, effectivement, les jours passent. D'ailleurs, il n'y a plus de saison, c'est fou Gigi. Il n'y a plus de saison pour Ekitike non plus. Qu'est-ce que t'en penses du cas Ekitike toi Gigi?
Mais écoutez, moi je pense que c'est un souci qui est dû au Paris Saint-Germain au départ. Ils se sont trompés sur le profil. Ils pouvaient pas prendre ce type de joueur et le mettre en couveuse. Et le laisser éclore et pouvoir s'épanouir au Paris Saint-Germain, c'est pas le club pour. Donc au départ, c'était pas ce profil-là qu'il fallait prendre la dernière à 30 millions, ou il fallait le prendre et tout de suite l'envoyer en prêt à l'étranger, dans le souplénat allemand ou des attaquants dans son type, type Allaire, Modeste, ou même Guirassy.
Un peu comme ce que t'as fait avec Xavi Simons cette année.
Exactement, ou même à l'époque comme ils avaient fait avec Rabiot quand ils l'avaient prêté à Toulouse pour lui permettre d'avoir du temps de jeu et de s'épanouir. Ils auraient dû prendre cet option-là avec ce type de joueur-là. Ensuite, il y a aussi le joueur. À un moment donné, je sais que t'es fan du Paris Saint-Germain, t'as grandi avec l'idée et l'envie un jour de porter ce maillot-là. Mais parfois, il faut aussi être conscient de ses capacités et de sa possibilité à pouvoir jouer dans ce type de club tout de suite. Et je pense que lui, dans son choix de carrière, de venir à 21 ans avec le vestiaire que c'était, les stars qu'il y avait autour, c'était pas le bon choix et son entourage ne l'a pas aidé. Ils auraient dû lui faire un club intermédiaire. Encore une fois, moi, je vois les Allaire, les Modestes, tout ça. Ces mecs-là qui sont allés en Allemagne.
Après, Jean-Jacques, je te pose une question, moi. Parce que j'ai parlé avec des sources proches du dossier. Eux, quand ils viennent au PSG, pour moi, c'est un mauvais choix. Bon, pour eux, c'était un bon choix. Mais ils viennent pas pour un an. Ils viennent pour cinq ans.
Non, ils savent que la première année.
Ce qu'on leur dit, c'est. T'as une première année avec les trois monstres.
Voilà.
Que normalement, il y en a qui vont partir derrière. Que même dans cette saison-là, après la Coupe du Monde, il va y avoir de la rotation et tu vas avoir du temps de jeu. Et que cette saison, elle va être fondatrice pour toi pour appréhender le PSG. Et derrière, tu vas avoir plus de.
Mais c'est un discours assumé à l'époque.
Plus de spots. Ouais, ouais. Sauf que, au bout d'un an, on lui dit, écoute, mon copain, nous, en fait, on veut prendre Colomouani pour 100 millions d'euros, et toi, tu vas aller à Francfort. Il faut aussi se mettre. Moi, j'ai beaucoup critiqué l'année dernière. Il a pas été bon. Et pour moi, le maillot du PSG, les épaules sont. Enfin, le costume est un peu trop
grand.
Un peu trop grand. Mais la réalité, c'est que ça reste un joueur de 20 ans et que tu peux pas. Quand on voit par exemple Colomouani actuellement, qui a beaucoup plus de minutes que Ekitike en a eu l'année dernière, on peut pas dire que le niveau de Colomouani et d'Ekitike soit à des années-lumière.
Ouais, mais là tu prends juste Lucas Colomouani, mais
oui,
après
mais non, mais moi je vais te prendre un autre
exemple. Lui, dans son optique, c'était que la saison, cette saison-là, il allait avoir des
spots. Laissez finir Jean-Jacques, les gars, vas-y.
En fait, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, il y a Colomouani, mais il faut aussi pas oublier qu'ils ont pris aussi Gonzalo Ramos. Donc, toi, en termes de minutes et en termes de tout ce qui arrive, quand tu vois Gonzalo Ramos qui arrive, quand tu vois qu'il y a Colomouani, qu'il y a deux numéros 9, Mbappé, ils pensent à le remettre dans l'axe, qu'ils ont pris des joueurs pour jouer sur les côtés.
Dans la stratégie sur les 5 ans, ils ont tout annulé sur la première année des Kitiké. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, moi, dans la gamberge des Kitiké.
Moi, je comprends tout à fait, mais à un moment donné, c'est comme au boulot. Et il faut, toi, on nous parle de méthode agile, tout ça, de s'adapter et de faire toutes ces conneries-là. Donc, à un moment donné, tu vois la situation comme elle est. Et ben, mon gars, adapte-toi. T'es dans un monde de loups. Tu peux pas jouer, tu peux pas être Bambi.
Oui, mais Jean-Jacques, moi, je veux bien, mais comment il fait, comment il fait pour lutter si t'enfermes Bambi dans la cage? Donc, il peut
qu'est-ce
pas
tenir l'an prochain.
Il est en cage.
L'an prochain, ils vont jeter Colomouani si au bout d'un an, il est pas bon du tout et Ramos la même chose et ils vont en reprendre deux autres.
Mais c'est malheureusement visiblement à haut niveau, toi la parole elle vaut sur le coup, et si tu prends pas ce que t'as à prendre sur le terrain, et ben tu te retrouves dans ces situations là. Moi ce que je veux dire par là, c'est que Colomouani effectivement peut-être pas à la fin du mercato avec Francfort, mais dès le départ quand il voyait que ça commençait à entre guillemets à négocier à droite à gauche, et ben lui il aurait peut-être dû essayer d'avoir des pistes, demander à avoir une offre de prêt, partir. Et tu vois comment ils font de Xavi Simons, ils essaient de refaire venir tout de suite après l'avoir vendu au PSV. Tu vois tout ça, et ben il faut t'adapter, il faut être rapide, et tu peux pas subir. Mmh. Moi j'entends tout ce qui lui arrive à Colomouani, à Ekitike, et je dis que encore une fois les premiers fautifs là-dedans, c'est le Paris Saint-Germain. Ils se sont trompés sur le profil et en pensant qu'ils allaient pouvoir lui laisser le temps en lui donnant les rotations, tout ça. Ce n'est pas le club pour ça. On connaît Paris, tu ne peux pas faire ça à Paris. Ouais. Ça n'a jamais existé, ça, à Paris.
Donc, pourtant, ils continuent de le faire cette année. Hein.
Ouais. Mais que Paris le fasse, c'est une chose, mais ça met aussi en lumière un truc, parce que moi, j'adore, tout le monde le sait, Barcola. Et quelque part, quand il est assigné, tout le monde dit, ouais, pourquoi il signe? C'est une grosse connerie de choix de carrière, parce qu'il ne va pas jouer, parce que machin. Déjà, il y a une grosse différence, je trouve, parce que il joue déjà beaucoup plus. Enfin, il joue et il a montré déjà beaucoup, même s'il a raté plein de trucs, il a montré beaucoup plus de choses en
la grosse différence, c'est qu'il y a un coach qui fait jouer les jeunes et
bien
qui
sait
les faire progresser.
Ouais, mais je pense quand même que là, il y a quand même effectivement, comme le disait Jean-Jacques, à la base, une erreur de recrutement. Alors après, il y a des conséquences énormes parce que le contrat proposé est dingue. Tout montre dans ce dossier, c'est un peu le cas d'école de ce que le PSG peut faire de terrible. C'est-à-dire, tu vas taper le gars parce qu'il a marqué beaucoup de buts en Ligue 1 sur une saison. Tu lui fais un contrat de dingo parce que même si tu y crois vraiment, ce salaire, ce contrat et tout, c'est de la folie.
Ah oui.
C'est de la folie. Donc, c'est ça qui entraîne tout ça derrière. Mmh. Donc, quelque part, on est toujours sur la gouvernance du Paris Saint-Germain, sur la façon
pour revenir au salaire. Ce qu'il faut, c'est que tu dis, pour le PSG, c'est pas énorme, mais le problème, c'est qu'il faut que tu penses, faut que tu aies la possibilité de ça fonctionne pas, et si derrière il doit partir, qui peut payer ce que moi je lui paye? Il faut que tu penses à ça aussi, si tu veux le prêter, peut lui assurer son salaire derrière?
Si tu lui donnes 300 000, la
question est est-ce qu'il serait pas venu à 300 000 par mois?
C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que qu'à la limite, j'ai presque plus d'indulgence pour la faute sportive de recrutement, parce que c'est facile à dire après aussi, tu sais, de dire, bah tiens, c'est évident qu'il n'avait pas les épaules pour. De même que certains m'ont dit, bah Barcola, c'est une connerie, il jouera jamais, donc il n'a jamais dû venir dans un club comme le PSG si jeune. Moi, je pense qu'il a un niveau très différent.
C'est plus ça que l'aspect économique.
Mais que l'aspect économique. Ouais. Parce que là, derrière, c'est toujours ce truc, tu assommes tout le monde, tu renverses la table.
C'est le plus dur à assumer, finalement.
Combien je me souviens même, je crois que c'est Tapie qui faisait ça à son époque, avec Waddle notamment. Les mecs, ils s'étaient hors marché. Ouais. Donc il y a des mecs qui disaient, non, mais de toute façon, il aurait pu mettre deux fois moins, il l'aurait eu aussi, mais il a voulu mettre deux fois plus. Mmh. Et il t'écrase de marché, t'écrase tout le monde, tu dis, oui, on est les plus forts. Sauf qu'à la fin, t'as effectivement une victime collatérale, et c'est terrible. Mais pour finir, sur quand même si c'est énorme, et même si.
C'est une victime à 600 000 par mois.
Voilà, mmh, c'est ça. Même si je comprends tout ce que t'as dit sur le salaire, je pense que même ces agents aujourd'hui, et l'entourage, qui ont voulu se battre aussi pour ça, même là aujourd'hui, même à 200 000 par mois sur un club, ils doivent y aller pour qu'ils jouent. Même si le PSG les dédommage pas, même s'ils n'arrivent pas à trouver de deal par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que il faut que le mec qu'ils ont dans ce contrat joue, et jouer aujourd'hui à 200 000 par mois, excuse-moi, mais toi, dans le monde où on est, c'est pas rien. Et même s'il aurait pu effectivement avoir plus pendant 4 ans, mais faut qu'il pense à ça quand même.
Allez, merci Jean-Jacques d'avoir été avec nous, supporter du PSG. On vous attend au 32-16. Supporter de Rennes aussi, on vous attend au 32-16. On va rouvrir le dossier, la fameuse interview de Daniel avec Julien Stéphan. On vous l'avait promis hier. Il a évoqué notamment le cas Nemanja Matić, hein, qui a annoncé partant au mercato d'hiver. Et puis son positionnement également, c'est que dans la France, on s'est souvent demandé s'il pouvait pas jouer défenseur central. On va écouter Julien Stéphan dans un instant sur RMC avec Walid Acharchour et avec Flo Gautreau.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
Avec Walid Acharchour, avec Flo Gautreau, on a évoqué Mbappé. On l'a écouté même d'ailleurs, le cas Ekitike. On va revenir sur l'interview dans le DR Show, comme DR comme Daniel Riolo, comme docteur également sur la chaîne YouTube de l'Afterfoot. Vous pouvez retrouver l'interview de Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais. Plus d'une heure d'interview avec Daniel. On a évoqué quelques thématiques hier. On devait évoquer le cas Nemanja Matić hier, hein, lui qui est arrivé l'été dernier en Bretagne, le Serbe de 35 ans qui a annoncé partant cet hiver. Julien Stéphan qui a rendu hommage à sa carrière et qui dit vouloir garder Matić. Écoutez-le, Stéphan.
Il y a la problématique de la langue, il y a un vestiaire qui est assez jeune, il y a eu des problématiques de résultats sur le début de saison, mais l'objectif c'est de garder Neymar avec nous et qu'il nous apporte justement toute cette expertise.
Mais il paraît qu'il veut partir.
Bah non, je ne le souhaite pas et il ne faut pas qu'il parte. Voilà, donc on va tout mettre, tout faire et tout mettre en œuvre.
Voilà, il veut le garder, hein, Julien Stéphan, vous aurez compris. On va évoquer son positionnement, on va écouter Julien Stéphan également là-dessus. Juste, est-ce que Rennes doit garder Matić selon vous les gars?
Bon, on en parlait un petit peu hier, Flo partait sur une note négative. Alors bien évidemment que son profil est très clivant parce que c'est un faux lent, c'est un joueur qui a une très très belle technique mais qui peut ralentir le jeu, qui a pas été extraordinaire sur la première partie de saison de Rennes, mais globalement toute l'équipe de Rennes n'a pas été au niveau. Mais moi je serais pas définitif sur Matić à Rennes. J'ai vu aussi des matchs, notamment ce match qui est l'un des meilleurs matchs de Rennes depuis le début de saison, je trouve, contre le Panathinaikos à 10 contre 11, où ils prennent le carton rouge très rapidement, ils se font égaliser, ils vont gagner 3-1 avec Matić qui fait un super match. Je pense que ce mec-là peut encore donner de belles choses en Ligue 1 et même en Europe face à l'AC Milan sur ce type de match, tu as besoin de joueurs comme Matić. Et moi je suis d'accord avec Julien Stéphan, dans cet effectif là on dit souvent que ça manque d'expérience. Moi je garderai Nemanja Matić à Rennes.
C'est le quatrième joueur de champ le plus utilisé cette saison après Théâtre, Bourigeaud et Truffert. Alors toi tu disais notamment hier,
c'est le joueur le plus averti je crois du championnat de France.
Ouais, ce qui est pas étonnant, c'est pour ça que je le kiffe moi Matić. Tu disais alors Stéphan il veut le garder, après l'autre question c'est est-ce que Matić lui veut rester?
Quand Daniel demande à Stéphan oui mais il veut partir, enfin lui dit il veut partir.
Je ne le souhaite pas,
dit-il. Oui, il ne dit pas il veut rester. Tout ce qui est dit là, j'ai eu Nema ce matin et il y a aucun souci, il a envie de rester, je sais pas ce qui se passe. Donc autant te dire tout de suite que tout ce qui se dit autour d'un éventuel départ, en tout cas, ce sont des choses qui sont vraies. Alors après, il y a plein de choses dans ces cas-là, c'est-à-dire que il est arrivé à Rennes, tout le monde était content, hein, faut le dire, parce que tu vois d'abord le transfert et le mec et le joueur que c'est. Moi, je vais être en partie d'accord avec Walid. Moi, je kiffe le joueur.
Ouais.
Mais après, il y a deux choses. Tu vois, il y a une vision toujours très individuelle et individualiste du football. Tu regardes des cartes Sorar et puis après t'as le jeu, le foot, l'ADN d'un club, une équipe. Et force est de constater que plus je regardais le Stade Rennais en début de saison avec Matić, qui me séduisait par la qualité de ses passes. Il t'envoie des passes, il passe des relais que les mecs font en trois joueurs en Ligue 1. Il va te le faire en une seule. Ok. Sauf que derrière ça, il a ralenti le jeu. C'est un fait. C'est comme ça. D'ailleurs, parfois. Genesio lui a demandé, on l'avait senti, d'aller plus haut, de se projeter. Il l'a fait, d'ailleurs. Il a provoqué un pénalty, je sais pas dans quel match, Panathinaikos.
C'est son meilleur match.
Mais c'est assez marrant parce qu'au début, il avait décidé de ne pas le faire et il jouait, entre guillemets, comme un sénateur.
Mais il l'a fait parce qu'il jouait à 10. Il jouait à 10, donc il y avait un dépassement de fonction.
Mais même en général, on a senti que parfois, on lui a dit quand même, il faut aller plus haut, il faut faire ci. Il l'a fait un petit peu, et puis moins. Mais globalement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est à Rennes, on a dit, il faut mettre un peu plus. aller chercher un transfert, une recrue un peu plus cotée, et on allait taper Matic. Mais à partir du moment où on allait prendre Matic, on a un peu perdu le fil de qu'est-ce qu'on veut faire collectivement. Est-ce qu'on est sûr qu'on garde l'identité du jeu? Moi, je pense que, paradoxalement, en ayant eu un des meilleurs joueurs, une des meilleures recrues sur le papier et techniquement de l'histoire récente du Stade Rennais, le Stade Rennais a plombé son jeu
collectif. Et tu penses que c'est à cause de Matic?
Attends, il n'y a pas que ça. Parce qu'effectivement, moi, je vais partir déjà du premier lanceur qui était Naïef Aguard il y a deux ans. Non, mais retrouver, il n'y a pas que ça, t'as raison.
Là, en fait, je vais faire peut-être un parallèle qui ne va pas être entendu, mais on a parlé d'Aubameyang hier. On disait quand il y avait beaucoup de
très bon avis tranché d'Olivier Chanchon, d'ailleurs. C'est excellent.
Le running gag est dingue. et quand on critiquait Aubameyang, je disais attention au tour, à l'animation. Et la même chose pour Rennes. C'est-à-dire que un Enzo Lefebvre doit faire beaucoup plus. Un Ryder qui est arrivé, à part sur coup de pied arrêté, je l'ai pas trouvé dingo. Un Bourigeau.
Ryder?
Ryder, pardon. Bourigeau qui a été un peu trimballé au milieu de terrain, qui est pour moi plus son poste. Lui aussi, il a pas trouvé sa place. Moi, je pense que c'est plus une question d'animation et que les responsabilités soient un petit peu dispatchées.
Et bah justement,
dispatchées. Et moi, je pense, comme pour Aubameyang, que ces joueurs-là en Ligue 1, qui ont connu le très très haut niveau, je peux pas imaginer qu'ils soient cramés.
Non, mais il est pas
fini.
Cramé, hein.
Et je pense que c'est à Julien Stéphan aussi de trouver
Juste Walid, parce que tu parlais de l'animation et du positionnement et de la façon dont ils jouent. On va écouter Julien Stéphan là-dessus. Nous, on s'est posé la question souvent dans l'after, à savoir est-ce que finalement Matic devrait pas reculer d'un cran et jouer défenseur central.
On pensait pas vraiment que ça.
Non, on s'est posé la question. Mais voilà ce que répond Julien Stéphan à ça au micro de Daniel.
Non, parce que je peux plutôt réfléchir en termes d'association de joueurs. Et l'association Matic le fait, en tout cas sur le dernier mois, elle a vraiment bien fonctionné. Un qui est en effet placé, positionné, grosse lecture du jeu, grosse expérience, très bonne qualité technique, avec un autre joueur qui est un joueur plus jeune, également avec une qualité technique de haut niveau, et qui est capable d'impulser des choses pour faire le lien entre le milieu et l'attaque. Je pense que c'est une question de complémentarité. Ça n'a pas été dans mon esprit de l'imaginer défenseur central. D'ailleurs, il y a jamais joué dans sa carrière. Et pourtant, il a connu des entraîneurs bien plus fort et bien plus huppé que moi, avec des Mourinho, avec des Ancelotti, et ils l'ont jamais mis derrière.
Voilà, en tout cas, il compte sur lui en tant que milieu de terrain.
Alors, nous, on avait dit ça.
Il l'a eu où avec Ancelotti?
Chelsea, non?
Ah, il était encore là quand Ancelotti? Non, Ancelotti, c'est 2010. Il arrive sous Mourinho après Benfica, j'ai un doute.
Je vais regarder, t'as raison.
Mais Stéphane se trompe.
Et pourtant, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit.
Il a raison. Nous, on avait dit ça plus parce que. Il y avait deux raisons. Il manquait un défenseur central d'expérience auprès duquel tu pouvais mettre de jeunes défenseurs centraux. Et par ailleurs, au milieu de terrain, il y avait pléthore de joueurs à Rennes, y compris Santa Maria qui est sur le banc. Donc tu disais, tu pouvais faire d'une pierre deux coups. Mais effectivement, Nemanja Matic, sa place, elle est au milieu.
Chelsea, il a joué que 3 matchs avec lui. Il a été pas mal blessé.
D'accord.
Je regarde la liste des mecs qu'il a eu comme entraîneur quand même.
Quelle année?
J'ai plus l'année là. Il a eu Antonio Conte aussi quand même.
Oui, Antonio Conte, oui. Ouais. Antonio Conte, Mourinho,
Jesus.
À Benfica, Jorge Jesus.
En tout cas, pour ce qui est du positionnement, moi, je te rejoins, mais sur les joueurs à côté. Mais justement, je voulais rebondir. Julien Stéphan, pardon, pas Guy, l'a fait. Le fait, il est bon sur le dernier mois.
Oui.
Donc, si tu veux, tu as raison. Le fait, Matic, bien sûr qu'on peut, revoir. Ça pourrait être, mais ça n'empêchera pas que Matic, dans le style de jeu du Stade Rennais, en tout cas, tu changes en gros.
De transition, de style.
Il a ralenti parfois le jeu du Stade Rennais. C'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Donc, et l'autre question, elle est plus sur son épanouissement personnel.
Ah, ça oui.
C'est-à-dire que, après, pourquoi on parle de départ? Parce qu'il y a eu des contrariétés, on a parlé de l'école internationale pour ses enfants.
Il y a des histoires d'ordre privé.
Après, Matic, dans une première partie de saison, pour tout vous dire, on m'avait dit un peu l'inverse. Il est arrivé, ça se passe super bien. Il a un de ses fils qui joue au Stade Rennais dans les équipes de jeunes. Il est ravi. C'est un mec qui est impliqué dans le vestiaire et tout. Mais les résultats étant moins bons, l'hiver arrivant et la mayonnaise ne prenant pas, ouais, je pense que dans sa tête, effectivement, il y a une possibilité d'un départ. Après, il n'est pas du tout dit qu'il va partir au mercato d'hiver. La réalité, en tout cas, et je pense que Julien Stéphan, s'il disait l'inverse, ce serait compliqué. S'il te dit aujourd'hui, non, mais c'est bon, j'ai plus besoin de Nemanja Matic, c'est compliqué parce que derrière, il nous sort une équipe.
Par rapport au débat d'hier, si en plus des recrues, on lui enlève Matic. Qui veut.
Là, il a vraiment une équipe affaiblie.
Dans le débat qu'on avait eu avec Maurice, etc.
Non, la vraie question pour Stéphane, comme pour Genesio, c'est et j'avais eu la réponse négative avec Genesio. Est-il capable de sortir Matic? Parce qu'en fait, Matic, le problème du début de saison, c'est pas qu'il a pas été bon. Sur certains matchs, il a même été très bon. Et c'est un très bon joueur. Mais c'est que Matic, il faut être capable de dire, non, tiens, on va jouer différemment.
Ouais, sur Matic, faut pas.
Or, Genesio, c'était un truc. Non, mais même parfois pour la rotation. Tu remets Santa Maria au milieu. Tu vois, tu remets des joueurs.
C'est partant.
Maintenant, il est annoncé partant. Il joue pas une minute. Et même quand Matic n'était pas bon, Santa Maria, il était sur le bord du terrain à s'échauffer pendant 80 minutes. Et honnêtement, à un moment donné, t'as le problème qui s'est posé et qui est rennais et de l'entraîneur rennais, c'est est-ce que t'as l'entraîneur qui a les épaules pour gérer un effectif un petit peu plus dimensionné en termes d'ego et de dire, toi tu vas pas jouer, toi tu
joues pas. On accueille Paul, les gars. On accueille Paul, supporter de Rennes qui est avec nous au 32-16. Salut Paul.
Oui, bonsoir à toute l'équipe.
Salut Paul.
Alors Paul, on en fait quoi de Matic? Toi en tant que Rennais, tu vas en faire quoi de Nemanja Matic? Déjà, est-ce que tu veux le garder? Et si tu veux le garder, tu veux le garder où? Au milieu, en défense, sur le banc, tu le veux où?
Alors juste en préambule, j'ai juste un petit mot à dire à Monsieur Gautreau que j'ai cru croiser il y a quelques mois. Je ne sais pas s'il va s'en souvenir. C'était après le match de Paris.
Ah, t'avais le masque là, léopard là. Ouais, il s'en souvient.
Non, mais il y a un vrai problème. Qui se dit Rennais, Monsieur Gautreau, enfin, amoureux de Rennes. Mais je crois que je l'ai croisé faire son footing après le match de Paris avec un maillot tout orange de Laval.
Absolument.
Eh oui.
Mais ça va. On tolère à Rennes, ça, non?
C'est
surtout pas le jaune de Nantes.
En fait, je veux rester neutre sur la Ligue 1 parce qu'on fait beaucoup de Ligue 1 quand même, essentiellement.
Et on salue Olivier Frappoli.
Donc je prends taf, un maillot de Ligue 2, peut-être un futur maillot de Ligue 1, mais un maillot de Ligue 2, pour ne pas froisser aucun supporter de Ligue 1.
Bravo. Ah, t'es neutre sur Rennes.
Mais le pas de course était affûté en tout cas.
Ouais, sinon Matic, Paul.
Alors oui, on va repartir sur Rennes.
T'as vu qu'il avait changé de voiture, d'ailleurs, le Serbe.
Non.
Il a une nouvelle auto, Matic.
Excellent. Est-ce que c'est un 4, Matic?
Elle était très bonne. Alors, concernant Matic, je vous ai écouté. J'ai aussi...
La première info, c'est que je faisais un footing, déjà.
C'est à la limite, il avait dit Walid. J'avais croisé Walid. Non, on aurait été sur
Walid. J'étais au kebab. D'accord.
J'ai croisé Flo au kebab. Donc, Walid est en train de faire un footing.
Il y a un truc, là. Il y a un truc qui n'y a pas. Vas-y, Paul, excuse-moi.
Non, il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous ai lancé, en plus. C'est moi le coupable. Concernant Matic, je vous ai écouté attentivement. J'ai aussi écouté attentivement l'excellent podcast vidéo du DR Show. Donc j'ai tout bien écouté. L'heure était très intéressante. Alors moi, si on reprend, Matic, c'est un cas que vous avez abordé, pourquoi pas. Moi, je reprends sur à chaque fois Rennes où on s'est régalé il y a 2 ans. Moi, il y a un profil qui m'interpelle, c'est que Laborde n'a jamais été remplacé. Je suis pas sûr que Matic, si on était dans ce système-là d'il y a 2 ans.
Matic, c'est pas un 9, hein.
Non, mais en fait, je pense que tout démarre de la période de Rennes où on a été vraiment très très bon. C'est la période Laborde qui n'a pas été remplacée, très clairement, et on pressait très haut, très fort. Donc je pense que, et on avait beaucoup de joueurs avec des profils où on entendait beaucoup les courses rennaises. Rennes court beaucoup avec beaucoup de sprints à haute intensité. Et bizarrement, depuis l'année dernière, on entend moins parler de ces stats-là. Et j'aimerais bien, je ne les connais pas, mais je ne serais pas surpris qu'on ait moins bon sur le nombre de kilomètres parcourus, les courses à haute intensité. Et ça partait de notre attaquant. Là, aujourd'hui, déjà, on a les premiers défenseurs, c'est les attaquants. On n'a pas ce prototype d'attaquant, ni Guerri, ni Calimuendo, encore moins Calimuendo, qui, pour moi, ne fait pas des vrais pressings. Limite, même le Turc m'a plus plu dans son envie de presser ses courses. Déjà, de base, on a ça qui est défaillant. On n'a pas remplacé le profil Doku. Alors, il y avait Benjamin Bourigeaud qui jouait côté droit et Terrier. Après, on a eu Doku. On n'a pas ce profil-là non plus, qui a été... d'ailleurs, Julien Stéphane en parle, de ce côté où, sur la largeur, on est défaillant. Et je pense que des profils comme Ludo Blas sont très problématiques et moi m'ennuie personnellement parce que je suis très déçu. Et là, on revient au milieu de terrain et notamment Matic où on se dit « Ah, il ralentit le jeu ». Mais la position de l'équipe rennaise n'est pas forcément la même qu'on a connue. Et c'est vrai que je pense que le problème Matic, c'est que c'était pas la priorité de la priorité côté rennais. On a fait une grosse signature. On a pris un joueur capé, reconnu, qui nous a fait un petit peu rêver avec le nom. J'avais quelques doutes au début de saison. Moi, j'ai vite enlevé mes doutes parce que c'est un joueur de classe. Mais tactiquement, c'est l'équipe qui pose problème, pas forcément le profil du joueur.
Là où tu as raison, là je te rejoins sur un point, c'est qu'on parle de Mercato, parce que lui, on évoquait son départ. Mais c'est vrai qu'il y a des priorités ailleurs. Et les priorités sont dans les deux surfaces, c'est-à-dire derrière, tu as un souci, c'est clair. Mais devant, là où tu as raison, c'est qu'il y a un autre souci, notamment pour moi avec Kalimuendo. Et il est vrai que là aussi, il te manque quelque chose. Et tu as tout à fait raison sur le profil de Laborde.
Il y a le Dirim là, c'est pas.
Si, mais le Dirim. Moi, je suis totalement d'accord avec Paul. Je préférerais presque mettre le Dirim pour récupérer toute cette notion de pressing. Après, c'est vrai que derrière, tu as aussi un profil pivot qui peut être intéressant. Il l'a montré en Ligue Europa. Mais est-ce qu'il a les épaules pour être le 9, tu vois?
Derrière, j'ai vu beaucoup de rumeurs aujourd'hui sur Thilo Kjaer, qui est apparemment
courtisé par la moitié de la Ligue 1.
Tout le monde, Monaco, ouais. Nice, Rennes, un manque de temps de jeu apparemment à West Ham.
Après, il y a juste un point pour terminer sur Rennes. Outre ce souci-là, et c'est intéressant quand même par rapport à la dimension que Rennes veut prendre, il y a aussi les soucis extra-sportifs dont on a parlé par rapport à la famille. Ça fait aussi partie, quand tu veux être un grand club, de pouvoir assurer aux joueurs que tu recrutes de lui avoir ce que tu lui as promis ou ce que tu as évoqué. Et dernière chose quand même, tactiquement, il a raison, Paul. Par exemple, que Stéphane mette un 3-5-2, ok. Mais qu'il mette le temps qu'il a mis à remettre Bourigeaud plus haut, alors qu'il a Assignon qui est un vrai piston pour jouer sur le côté droit, t'as aussi parfois une perte de temps, entre guillemets, que ce soit sous Genesio ou sous Stéphane, pour régler les soucis tactiques du Stade Rennais.
Merci Paul d'avoir été avec nous dans un instant des infos du jour avec Flocotroi, avec Walid Acharchour dans l'after. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Villas.
Avec Walid Acharchour, avec Flo Gautreau, on est dans l'after, il reste quelques minutes avant la fin de cet after. Je vous donne les infos du jour. Alors, il y a un truc assez dingue d'ailleurs, vous savez que la Super Coupe de Turquie devait se jouer aujourd'hui à Riyad en Arabie Saoudite, et finalement elle a été boycottée par les deux équipes participantes, à savoir Fenerbahçe et Galatasaray. Pourquoi ? Parce que les autorités saoudiennes ont refusé un hommage qui devait être rendu par les deux clubs et leur joueur à Mustafa Kemal Atatürk, qui est le fondateur de la République de Turquie. Donc il devait y avoir des messages dans les tribunes, des tifos et un t-shirt porté par les joueurs, et ça a été refusé par les autorités saoudiennes. C'est quand même assez fou. Du coup, le match va être rejoué. Les joueurs sont même pas sortis de l'hôtel. Et la Supercoupe devrait finalement être jouée en territoire turc. Et puis, on poursuit également les infos liées à la CAN. Les listes qui continuent d'être dévoilées. On a eu la liste. On évoquait le Sénégal hier. On se demandait quand est-ce que Aliou Cissé allait donner ses choix.
Juste après l'émission.
Voilà. Et finalement, c'est tombé. On se posait la question. Alors, il y a les Marseillais Pape Gueye, Illiman Ndiaye et Ismail Assar qui en sont. Au final, il y a quand même énormément de Marseillais qui vont à la CAN. Hein. On avait déjà Bemba, Mugué, Simon le gardien également, Harry Théo, Unai aussi.
D'où mon avis de l'autre fois.
Ouais, là, ça...
Par contre, pas de Bamba Dieng qui était important à la dernière CAN.
Pas aussi mystique en que l'avis de Walid sur Aubameyang.
Ça restera pas dans les années.
Il a pris les blessés parce que Nampalis Mendy qui s'est blessé sur le dernier match de Ligue des Champions notamment sera du voyage, et Boulaïdia qui avait aussi été blessé appelé.
Et alors la liste de l'Algérie est tombée il y a quelques minutes là. Walid.
Oui, depuis une heure.
Est-ce qu'il y a des surprises déjà?
Non, parce que je l'avais il y a deux minutes. Je vais te la sortir tout de suite. Surprise, non, pas de surprise. Le gros choix, mais bon, on s'y attendait. C'est Benrahma qui est pas dans la liste après le coup de sang, après la petite embrouille qu'il y avait eu notamment sur les derniers matchs. Retour de Mboli. Même si Mandrea est numéro 1, le gardien de Caen. Devant, il y a du lourd, Mahrez, Ounas, Amoura qui pète le feu en Belgique
avec l'Union
Saint-Gilloise, Amine Gouiri, retour de Belaïli qui s'est relancé aussi dans le championnat algérien. Et au milieu de terrain,
il y a
Boudjia
et Slimani aussi.
Retour de Bentaleb, Aouar est là, Shaibi qui est en grande forme avec Francfort qui va peut-être pouvoir jouer milieu de terrain, Boudaoui, Zerouki de Feyenoord, et le retour de Ismaël Benacer qui était blessé un peu avec l'AC Milan, qui est revenu sur les derniers matchs et qui sera dans le groupe et en défense, Atal, Guitoun, Demes qui est Ait Nouri, Laroussi, Mandi, Tougaï, Ben Sebaini, Touba, Belaïd. Donc belle liste cohérente, tout le monde est là du côté algérien, et ça donne des belles perspectives pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont pas favoris, mais ils ont une carte à jouer dans cette compétition.
On rappelle à l'Algérie qui est dans le groupe du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola. Voilà, qui est quand même favori de son groupe, hein, on peut dire.
Oui.
l'Algérie. D'autres listes également, avec des histoires un peu moins drôles. Il y a la liste de l'Afrique du Sud qui a été révélée aujourd'hui. Alors, il n'y a pas Motiba le Strasbourgeois, puisqu'il s'est blessé au genou récemment. Et alors, il y a l'histoire assez dingue de Lyle Foster, qui est le joueur de Burnley, alors qui n'est pas là pour des raisons de problèmes de santé mentale, a indiqué la Fédé sud-africaine. Ils ont pris conseil auprès de son manager à Burnley en Angleterre, qui est Vincent Kompany, qui a expliqué qu'ils essaient de remettre le joueur d'aplomb mentalement. Ils ont demandé à la Fédé sud-africaine de ne pas le convoquer. C'est vrai que l'Afrique du Sud, pas, ils n'ont aucun joueur, par exemple, qui évolue dans un championnat du Big Five. Ce qui est quand même, assez fou. Ouais. Et Lyle Foster, qui est un petit peu l'une des petites vedettes de cette équipe,
c'est fou par rapport à leur histoire et qui aurait pu se développer de dingue, tu sais, à l'époque où ils ont joué contre la France.
Après 2010.
Ouais, après 2010, bien sûr, après la Coupe du Monde, mais même dès 98, ils avaient commencé à créer quelque chose. À l'époque, il y avait McCarthy, tu sais, qui était un peu la vedette.
Steven Pinard.
Ouais, et Pinard, effectivement.
De l'Ajax et des Vertus.
Tu as eu des joueurs qui auraient pu laisser penser que le pays, puis c'est un pays, c'est un réservoir, c'est un truc de dingue, hein, l'Afrique du Sud. Et effectivement, c'est assez étonnant. Pour revenir au problème de santé mentale, c'est un vrai sujet, on a déjà parlé dans l'after, mais par rapport à tout ce qui s'est passé avec BKBK et tout, mais maintenant, on en parle. On commence quand même à le dire et à communiquer sur ces sujets-là.
C'est moins tabou, ouais.
C'est un peu moins tabou qu'avant.
Et puis, juste également un mot sur la liste du Nigeria qui a été annoncé également. Il n'y a pas Terem Mofi, l'attaquant de Nice. Alors, il faut dire qu'il a du monde, face à lui. Il a Osimhen, notamment, et Boniface qui cartonne avec Leverkusen.
Boniface, il y a Lookman de l'Atalanta. Ouais. T'as Ilinacho qui est toujours là, toujours en place.
En revanche, c'est à Moses Simon qui a été convoqué de Nantes.
Le bon vieux Ahmed Musa. Par contre, la différence entre le secteur offensif et le secteur défensif du Nigeria.
Ils ont des gros problèmes.
C'est assez effrayant. Si Boniface va jouer, si Boniface joue défenseur central, on ne sera pas surpris sur la canne.
Merci Walid Acharchour, merci Flo Gautreau. On se retrouve demain, bien entendu. Merci Geoffrey Charpille à la prod, Daniel Torres à la réalisation. Merci Adrien au standard. Et nous, on vous dit à demain sur RMC. Bisous, prenez soin de vous.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.